and the U.S. Congress on Orium Room.
All right, ladies and gentlemen, if you would be kind enough to...
Messieurs, dames, nous vous demandons de prendre place. Nous allons commencer notre réunion. Encore une fois, nous vous demandons de vous asseoir, s'il vous plaît. Ce serait très apprécié. Merci.
Does that mean you want me to start, Nancy? I
think she does. Alors, faut-il que je commence, Nancy?
So, welcome everybody and...
Bienvenue à tous et merci d'être présents pour cette réunion. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, d'entre nous, la réunion à Cannes a déjà commencé il y a 4 jours. Mais le fait de faire ceci le dimanche soir, c'est sympathique. Nous avons plusieurs choses à présenter, mais j'aimerais commencer par présenter Ira Magaziner qui va faire quelques remarques et qui va également prendre des questions à la fin. Donc, comme pour beaucoup d'entre vous le savez, Ira était à la Maison-Blanche. Il était conseiller supérieur en politique et en développement à l'époque où l'ICANN a été formé. Donc, il a énormément de passé, d'expérience, d'implication. Il a suivi certaines des discussions ici. Il est également conseiller du CCWG sur le processus de responsabilité. Et il a été présent à plusieurs des réunions qui ont eu lieu. Nous allons écouter Ira et ensuite nous parlerons où nous écouterons Jimmy, mon collègue, Jimmy Headland, qui s'occupera du panel ici sur la scène. Donc, Ira, pour commencer, Ira Magaziner.
Thank you. I thought I would start...
Merci. Donc, je souhaite d'abord commencer par vous parler de ma première rencontre avec l'Irlande il y a 12 ans, alors que je n'avais pas mis pied en Irlande. J'étais étudiant à Oxford. J'étais un étudiant, donc Rhodes Scholar. Donc, pendant ma première semaine en cours, je me suis rendu compte qu'il y avait deux hommes assez grands, assez imposants et qui étaient très bien habillés, qui étaient en costume. Ils étaient là le matin, lorsque je partais de ma chambre, ils étaient là en cours avec moi et ils étaient toujours derrière moi à quelques mètres. Et au bout d'un certain temps, au bout de quelques jours, je me suis dit, bon, je vais aller leur parler. Et ils se sont enfuis. Je n'ai pas réussi à les attraper. Et donc, le lendemain, je sortais de mon dortoir et il y avait une voiture à l'extérieur. Ces deux hommes sont sortis. Ils ont mis la main sur mon épaule, chacun sur une épaule. Et ils m'ont dit, entre dans la voiture. Et ensuite, ils m'ont montré un badge et ils m'ont dit qu'ils... étaient dans les forces de la police, une branche un petit peu spécialisée, l'équivalent du FBI aux États-Unis. Donc, je suis rentrée dans la voiture, je n'avais pas le choix. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que... Je sais que j'avais fait certaines manifestations sur les droits de l'homme aux États-Unis, mais enfin, bon, je ne voyais pas pourquoi ils me prenaient comme ça. Ils m'ont emmenée dans une salle d'interrogatoire. Il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé dans la salle et qui a donné un coup de poing dans la table et qui m'a dit « Où est la presse à impression ?» Je dis « Mais de quoi parle-t-il « Dis-nous où est la presse ?» Et donc, quelqu'un à l'université d'Oxford avait mal lu quelque chose. À l'époque, l'IRA donc, avait fait certaines manifestations à Londres et donc la sécurité était très élevée. Et donc, il y avait quelqu'un qui envoyait des emails à l'IRA, au magazine IRA, IRA Magazine. Et donc, ils ont pensé qu'avec mon nom, je publiais un magazine qui s'appelait le magazine de l'IRA et que je poussais les gens à faire exploser des bombes. Donc, je lui ai dit, non, mais je m'appelle IRA Magazine, c'est mon nom. Et au début, bien sûr, ils ne m'ont pas cru parce que c'est un drôle de nom. Mais bon, ça a été ma première expérience des Irlandais. Et je raconte ça parce que je crois qu'à l'époque, et ça fait d'ailleurs pas très longtemps, quel était le mode de communication? Eh bien, c'était justement les machines à écrire. Et donc, si on faisait une erreur, on était obligé de blanchir pour corriger l'erreur. Ce n'était pas du tout une machine électronique. Il y avait l'IBM 360 qui... avec laquelle il fallait faire très longtemps pour faire. Il y avait donc des presses imprimées, il y avait des imprimantes, machines pour imprimer. Et donc, à l'époque, c'était comme ça. Puis ensuite, on est passé aux ordinateurs et individuels et petit à petit à l'Internet. Donc, les choses ont énormément changé. Il n'y avait même pas d'imprimantes telles qu'on les connaît actuellement. Donc, si je considère les changements depuis les années 90, où nous avons commencé notre travail, ces changements sont absolument phénoménaux. Et donc, lors du lancement du processus, j'ai fait la chose suivante. Je vais le refaire. Le président Clinton m'avait demandé d'organiser un groupe de travail au sein du cabinet pour, en fait, continuer sur la lancée économique sur laquelle on était. Et donc, nous avons considéré certaines choses. C'était au moment de la réélection de Clinton. Et donc, au cours des quelques premières semaines, nous nous sommes dit, bon, si on considère la croissance économique, ce qui alimente cette croissance économique, c'est les nouvelles technologies. Et donc, l'Internet n'avait que quelques années à l'époque, mais l'Internet avait une promesse, comportait une promesse de stimulation de l'économie mondiale à un niveau extraordinaire. Et puis, on a également vu quel était l'impact du génome humain sur les technologies ainsi que les énergies renouvelables. Mais l'Internet, il nous semblait que c'était quand même une des choses majeures. Et donc, on s'est dit si on pouvait mettre en place un certain nombre de processus qui permettent à cet Internet de devenir utilisable sur le marché de manière conviviale, si l'on permettait à l'Internet de devenir un médium commercial, eh bien cela permettrait à l'économie d'avancer. Nous avons donc prévu que l'économie pourrait croître de 10 fois plus rapidement. Mais le cabinet nous a dit, bon d'accord, le président nous a dit, très bien, allez-y, ça semble être intéressant. Et donc au tout début de mon travail, lors de la première semaine à mon poste, j'ai eu des appels téléphoniques, j'ai reçu des appels téléphoniques d'un groupe de personnes. Et donc parmi ces appels, il y avait le chef de l'agence DARPA qui m'a dit, écoutez, nous avons un contrat avec un gars qui est en Californie du Sud, qui va s'occuper du système des numéros. Donc, il est en Californie. Très bien. Nous, on souhaite se retirer de tous ici. Et donc, le président de l'université en Californie du Sud nous a dit, il y a plusieurs groupes qui nous poursuivent en justice. Ça ne nous intéresse pas. D'ailleurs, il y a 50 poursuites en justice dans le monde entier qui remettent en question la façon dont l'Internet, ces noms, numéros, ces noms fonctionnent. Donc, le département du commerce, ensuite, a lancé le contrat pour les noms de domaine à une société qui s'appelait la Network Solutions, qui ensuite a été achetée par VeriSign. Et donc, le chef de cette, le responsable de cette compagnie, qui ensuite a intégré John Postel, donc on s'est dit, bon, il faut investir dans l'Internet. Il y a un potentiel, mais ce n'est pas un environnement très prévisible. Donc, à ce point, nous avons formé un cadre pour le commerce électronique, un rapport sur le commerce électronique. Et au cours d'une année et demie à peu près, nous avons négocié un nombre de traités internationaux avec l'Union européenne, le Japon, l'Australie et d'autres pour que l'Internet soit protégé du terrorisme et également pour protéger les droits d'auteur sur l'Internet, ainsi que pour reconnaître les signature numérique comme juridique, comme légal, exécutoire dans l'Internet. Nous avons également adopté différentes législations au sein du Congrès américain pour permettre à l'Internet de fonctionner. Donc, nous avons éliminé les taxes sur l'Internet. Puis également, nous avons dérégulé l'Internet ou interdit la régulation par la FTC de l'Internet, de manière à ce que le marché puisse être libre sur l'Internet. Donc, il y a eu ratification du traité pour ces signatures numériques. Et donc, à l'époque, à Washington, c'était une époque très divisée, très partisane, tout autant qu'aujourd'hui. D'ailleurs, il y avait eu une interruption totale du gouvernement dans le cadre d'un conflit entre la Maison-Blanche et le Congrès, les républicains qui étaient au Congrès. Et il y a eu même le président Clinton qui aurait pu partir du gouvernement. Donc, nous avons décidé que la législation de l'Internet devait être exclue de tout cela. Ceci, d'ailleurs, a été soutenu par les démocrates comme par les républicains. Il y avait Newt Gingrich qui était donc à la Chambre des représentants. Il y avait également le sénateur Orrin Hatch qui était impliqué dans cette question de la signature numérique. Et donc, nous avons eu 70 sur 80 voix au Sénat et 100, dire les deux tiers, à la Chambre des représentants. Et donc, lors de l'État de l'Union, lors de ce discours, eh bien, cela a été mentionné parce que c'était quelque chose qui ne devait pas être une question partisane. Et ça a fonctionné. Et à l'époque, nous avons également formé ce qui est devenu l'ICANN, parce que nous avions besoin d'un véhicule qui aurait pu devenir mondial. À l'époque, vous savez, il y avait le Minitel en France, qui était la version de connexion française, parce que l'Internet était encore petit, mais c'était leur moyen de connexion. Mais nous pensions qu'il fallait qu'il y ait un moyen basé sur les lois du marché, un moyen rapide, puisse donner les capacités au marché, aux différentes parties prenantes du marché, de fonctionner. Et puis, de la même manière, il fallait quand même qu'il y ait un cadre juridique, tout ceci. Et donc, en un an et demi, l'ICANN est né de ce processus. Et ça a été en fait la première organisation de ce type, avec une organisation donc à but non lucratif connue par les gouvernements, dans laquelle les gouvernements avaient un rôle consultatif. Nous avons fait cela parce que nous pensions que, même si, bien sûr, nous soutenions le travail des Nations Unies, nous pensions que l'Internet devait être basé sur les lois du marché, il devait être gouverné de manière ascendante et le développement de l'Internet devait être rapide. Et même si ces processus peuvent vous sembler, en termes de prise de transition sur la transition, sont lents, eh bien, la prise de décision, par exemple, dans l'Union des télécommunications internationales est beaucoup plus lent. Cela peut prendre 8 à 10 ans. Donc, nous avons pensé que l'Internet allait mieux fonctionner en tant qu'entité ouverte. Et en plus, même si les gouvernements étaient très importants, même s'ils devaient participer, ils ne devaient pas être les seuls à participer. Donc, voilà un petit peu pourquoi et comment l'ICANN est né. Et si je regarde en arrière, encore une fois, en tant que personne qui a été impliquée, rester impliquée, ça aurait été un petit peu un conflit d'intérêts. Donc, je me suis retirée du processus. Mais quand je regarde un petit peu l'historique, lorsque je me suis réimpliquée à Singapour, lorsque le processus a commencé, parce qu'au départ, nous avions recommandé que le gouvernement américain donc devait retirer sa supervision et que c'était donc la communauté qui devait réellement se charger de tout ceci. Bien sûr, nous sommes rendus compte que nous allions avoir besoin de temps pour que la ICANN se prouve et pour que tout ceci se produise. Alors maintenant, si je regarde de manière individuelle, en tant que personne, tout ce qui s'est passé sur l'Internet, bon, le nombre d'utilisateurs est extraordinaire. Le nombre de noms de domaines, le nombre de langues qui sont utilisées sur l'Internet, le Wi-Fi, les dispositifs mobiles et maintenant l'Internet des choses. Et ce qui est remarquable, réellement, c'est qu'on ne lit jamais rien sur l'Internet qui indique que l'Internet ne fonctionne pas. Pourquoi ? Eh bien, c'est grâce aux personnes qui sont présentes ici. Les personnes qui s'occupent des activités de base, des activités techniques, la coordination technique de l'Internet ont été en mesure de rester au pas de toutes ces évolutions, de tous les changements. Et donc l'Internet continue de fonctionner sans accroc. C'est remarquable. Cela fait 20 ans que ça fonctionne. Et 16 ans pour ce qui est de l'ICANN, de l'existence de l'ICANN. C'est absolument remarquable. Alors, pour conclure ce que je voulais dire, j'ai observé ce processus au cours des 18 derniers mois et je suis très optimiste. Comme toujours, lorsque les processus, les prises de décision sont basées sur le consensus, malgré les hauts et les bas, eh bien, les gens ne sont pas timides dans l'Internet. Il y a beaucoup d'arguments, il y a beaucoup de discussions, mais on avance et on recule. Et ceci est sain. Mais d'une manière générale, le processus ascendant, avec beaucoup de commentaires, beaucoup d'investissements de différentes personnes, eh bien, tout ceci a permis d'arriver à 98, voire 99% de consensus. Et je crois qu'au cours des jours à venir, il y a des gens qui ont des points de vue très prononcés sur la responsabilité en particulier. Et donc, il y a des gens qui devront un petit peu changer leur approche. Mais d'une manière générale, je crois que ce processus de consensus va réussir. Nous allons arriver à obtenir une proposition consolidée qui sera faite d'ici quelques jours. Je pense qu'au bout d'un certain temps, il y aura un document qui pourra être présenté au gouvernement des États-Unis pour faire avancer la transition. Et donc, j'ai réellement espoir que ce consensus, nous y sommes presque. Je félicite tous les présidents des comités qui ont énormément travaillé pour naviguer dans toutes ces questions, pour en arriver à ce point où nous sommes presque au consensus. Et donc, nous devrions terminer tout ceci d'ici quelques jours. Je suis également très optimiste. J'ai pu rapidement rencontrer certains des membres du personnel et je suis également très optimiste parce qu'il existe au Congrès américain un esprit dans les deux camps, un esprit travail de coordination commune. Donc, je pense que nous devrions pouvoir continuer d'avancer. Alors, j'aimerais terminer en disant la chose suivante. À mon avis, ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est historique. Si vous regardez en arrière, si vous regardez l'évolution des sociétés, vous savez, donc les communautés de chasseurs, les communautés agricoles, ensuite les communautés industrielles, toutes ces transitions majeures dans l'histoire humaine, si on retourne 2000 ans en arrière, ont toujours été accompagnées de changements dans la gouvernance, de changements dans la manière dont fonctionne la société. Et même s'il y a toujours deux pas en avant, un pas en arrière, on voit de plus en plus la démocratisation qui est rendue évidente à chaque étape. Et on voit que le progrès, eh bien, il coûte toujours quelque chose. Mais le progrès technologique est toujours synonyme d'amélioration de la liberté humaine et l'amélioration du potentiel humain. Et cette révolution de l'Internet, elle est tout aussi fondamentale que la révolution industrielle. Et le modèle de gouvernance que vous avez mis en place au cours des dernières années, des 16-17 dernières années, eh bien, je crois que ce sera un paradigme qui permettra de former l'avenir. Et la manière dont les processus ascendants, les processus basés sur le consensus démocratique, donc, fonctionneront à l'avenir. Donc, je crois que votre travail est historique. Même si je ne suis pas impliquée directement, je vous félicite pour tous les progrès qui ont été effectués et j'espère que vous allez pouvoir en arriver à un consensus au cours des jours à venir. Je crois que le travail a été extraordinaire et vous pouvez en être fiers. Merci beaucoup.
Je peux répondre à vos questions si vous en avez, bien sûr. Sinon, je vais en arrêter là. Je sais bien que c'est dimanche soir, tout le monde n'est pas forcément alerte et n'est pas forcément intéressé. Mais si vous avez des questions, vraiment. Non, merci.
All right, thank you.
Merci. Bienvenue à la prochaine partie du programme. C'est Jamie Headlong au micro. Je suis le responsable de la relation entre l'ICANN et le gouvernement américain. Je voudrais présenter le panel et commencer notre discussion. À ma gauche est Jeff Ferra, conseiller au comité du commerce. Et nous avons aussi Jeff était donc conseiller général au sénateur Scott Brown. Il était conseiller tout ce qui s'agit du commerce international, la propriété intellectuelle, la technologie et les sanctions. Avant cela, il était avocat dans une des firmes de Washington et donc spécialisé dans tout ce qui était commerce international. Ensuite, nous avons Jeff, John Branscombe. Il est au Sénat, une commission du commerce du transport. Il a aussi servi en tant que conseiller pour les communications et la propriété intellectuelle pour le sénateur américain Amy Klobuchar. Et auparavant, il travaillait dans une firme d'avocats à Washington. Et ensuite, il y a David Rattle, qui était chef conseiller à la Chambre des représentants américaine, au Comité de l'énergie et du commerce. Et dans ce rôle-là, il était un des conseillers principaux du directeur et du directeur du sous-comité sur les questions technologiques. Et aussi, auparavant, il était directeur des affaires régulatoires du CTIA. Et une association internationale de commerce de l'industrie de la communication et qui se spécialisait sur le haut débit et les affaires régulatoires. Et ensuite, nous avons Monsieur Goldman, qui est conseil en chef des comités sur la technologie depuis janvier 2015. Avant cela, il était conseiller pour Jessica Monson. Et avant cela, David a eu beaucoup de postes au FCC, surtout dans le bureau de Monsieur Julius Janakowski. Et avant cela, il était au tribunal du 7e circuit à Chicago en tant que greffier. Et nous allons donc procéder ainsi. Nous allons poser des questions s'il y a de la participation des gens du panel qui pourront donc y répondre. Et si nous avons le temps, nous pourrons avoir une petite séance questions-réponses à la fin de la réunion. En tout premier, nous allons parler de l'historique. La première question, pourquoi et depuis quand est-ce que le Congrès et vos comités se préoccupent de l'Internet en général et de la transition du rôle de l'IANA, de la supervision de l'IANA? Comme je l'ai dit, la personne sur le panel, oui, au niveau de la transition d'IANA, il n'est donc pas surprenant que nous sommes inclus dans le procédé. Cette fois-ci, nous avons participé à la fin de l'année dernière et cela a commencé au tout début du processus IANA avec ce qu'on appelait l'acte.com, donc la supervision, l'acte de supervision. Au début du processus, il y a une loi qui est née suite à beaucoup de questions qui est sortie de toutes les réflexions des comités. Et surtout pour tout ce qui était intérêt domestique, intérêt national aux États-Unis. Nous avons eu beaucoup d'audiences sur ce sujet. Nous avons eu beaucoup de réunions d'information entre toutes les parties prenantes, l'ICANN, le NTIA et toutes les parties prenantes. Encore une fois, nous avons eu ensuite une révision de l'acte.com. J'ai travaillé avec Monsieur Goldman qui a travaillé avec moi. Nous avons eu ainsi une version de l'acte.com qui est passée devant en fait, il s'est passé beaucoup de choses durant la réunion de l'Argentine pour la CAN. Nous avons passé cet acte avec 378 oui, alors que les membres de la Chambre sont à 405. Alors, Monsieur James Handlum au micro, est-ce que je pourrais parler de la participation du Congrès dans la gouvernance de l'Internet international? Donc, en dehors des sujets de la transition d'IANA. John Branscombe, oui, nous avons parlé de cela. Nous avons été intéressés depuis des années. Nous étions à Dubaï ensemble au niveau international. La gouvernance de l'Internet est importante pour nos membres, en dehors de la transition de l'IANA. Je pensais que le speaker, je pensais que vous, Monsieur Hedlund, je pensais que vous pourriez passer parler du fait que s'il y a un support qui est un peu bipartisan sur toutes ces positions particulières sur la gouvernance de l'internet. Oui, je vais dire que oui. Pour tous nos collègues qui sont républicains, le sénateur Thun était participé dans ce travail sur la responsabilité pour qu'il y ait des propositions qui soient faites. Nous avons eu des audiences avec sénateur Strickling et Fadi Shehadeh a participé aussi avec cela. Tu vois? En dehors de ce travail qui a été fait, il y a eu de nombreuses interventions, nos comités, les comités des affaires étrangères, le comité IT, tout le monde a toujours été très inclus à participer, surtout les secteurs ITU. Ce sont tous ces problèmes qui sont intrinsèques aux problèmes de la gouvernance de l'Internet. La disponibilité du spectrum pour les services de radio, pour avoir l'accès... au Capitol Hill, récemment, vous savez que vous avez aussi reçu notre intérêt quand l'ICANN a déployé le nouveau programme des nouveaux GTLD. Nous avons travaillé ensemble, du moins dans la Chambre des représentants. Je ne parle pas du Sénat, mais dans la Chambre des représentants, nous travaillons avec tous les différents groupes pour nous assurer que tout cela aille... Et pour nous assurer que tout était au point en tout ce qui s'agit de la branche juridique pour les États-Unis. C'est incroyable de voir que la Chambre des représentants, le Sénat, les démocrates, les républicains ont vraiment soutenu cette approche multipartite. Et les quatre d'entre nous sont en désaccord sur beaucoup de sujets, mais c'est une question et c'est bien. Tous nos patrons, en fait, sont d'accord là-dessus. Nous sommes en accord sur ce sujet. Et c'est une question qui était moins conflictuelle pour nos comités, dit Jeffrey Farah. Au mois de janvier, donc nous avons eu des audiences sur ces problèmes. Si vous ne voyez pas que tous les membres étaient là dans la salle, tout le monde était là et on avait vraiment, on ne pensait pas qui était républicain ou démocrate parce que tout le monde était d'accord. Alors Jeffrey au micro, oui, expliquez si vous pouvez, Jamie Hedlund. NTA était un acteur important dans tout cela. Nos deux comités, dit Jeffrey. On travaillait avec tous les deux groupes. Nous avons donc un rôle de supervision au-dessus du NTA. Alors, ce que cela veut dire, c'est que NTIA, les statuts qui gouvernent le NTIA, l'acte NTIA a été promulgué par nos comités. Et les amendements ne fait pas notre comité. Nous avons une bonne relation avec NTIA. Nous avons toujours l'occasion de coordonner avec eux en tant que citoyens américains, pas seulement en tant que la branche exécutive du gouvernement américain, mais en tant que citoyens en général, malgré que souvent on nous montre comme quoi on est les gens qui supervisent, nous avons en fait une très bonne relation avec eux, une relation de collaboration avec le NTIA. James Hedlund, oui, il y a beaucoup de lois qui ont flotté, disons, durant au Congrès sur la transition, qui avait affaire avec la transition, le Act.com, une loi de... budget qui pourrait peut-être bloquer la transition. Est-ce que vous avez une idée de ce qui se passe avec ces lois? Vous pensez qu'elles auront un impact, qu'elles impacteront la transition? En général, Jeffrey au micro, en général, vous voyez que nos préférences seraient de conduire une supervision et de parler au niveau d'une perspective congressionnelle, pas forcément, par exemple, l'acte de .com, au lieu de parler des politiques. James Hedlund, oui, le travail du département du commerce, c'est de créer des politiques. Ce n'a rien à voir avec les gens qui s'occupent des budgets. Jeffrey Farah, correct, oui, le comité du commerce et de l'énergie et le comité du Sénat sont deux parties qui autorisent. Il y a énormément de supervision, comme je l'ai dit, à travers des lettres, des audiences. Et beaucoup d'entre nous ici participent et font ce qu'ils ont à faire. Pour expliquer, en général, il y a deux comités qui font face, qui se préoccupent des agences. Il y a le comité qui autorise et qui fait face à tout ce qui est politique et l'autre qui fait face à tout ce qui est budget. Et nous avons ensuite les gens qui font... Alors, bien sûr, nous n'aimons pas forcément qu'un comité ou l'autre supervise l'autre, mais je parle des gens que je représente. Nous pensons que l'acte.com est une bonne alternative. Alors, David, oui, la relation de... comme elle m'avait été décrite au départ, la réalité, c'est que, comme vous voyez, .com, c'était au départ, nous avons l'impression de détenir un peu cette loi. Nous sommes fiers de cette loi. C'est comme ça que nous aimons faire les choses. Y a-t-il une préférence? Est-ce que cette .com va avoir du mal à sortir de la chambre? Jeffrey, on essaye de travailler dur pour nous assurer que cela fonctionne. James Hadlin, OK. Vos patrons et le sénateur Brian Schatz ont envoyé une lettre récemment à Steve Crocker. Et je ne sais pas si tout le monde l'a vu, mais je me demande si vous pourriez nous aider. Et vous avez mentionné que la lettre que vos patrons à vous et sénateur Rubio ont envoyé en juillet 2014, pardon. Qu'est-ce qu'on doit en tirer quel est ce message? Quel est le message qu'on doit en tirer? Sherman Clune a été participé. Jeffrey Farrell au micro. Sherman Clune a été inclus dans ce processus. Et on essaie de trouver le moment approprié pour qu'il puisse donner une idée de ce qu'il voudrait voir pour que cette transition. C'est un processus ascendant et ce sont le genre de choses qu'il va rechercher. Et il y a beaucoup de membres du Congrès, du Sénat, qui vont rechercher cela quand la proposition va être mise en place, mise en actif. Il y a beaucoup de choses qui pèsent. Il y a beaucoup de choses qui l'intéressent. Vous avez parlé du sénateur Rubio en 2014 qui avait proposé une réforme, des réformes spécifiques. Il avait dit qu'il voulait qu'on voit dans les statuts que seulement l'avis de GAC par consensus serait considéré par le conseil d'administration. C'est des choses, des exemples sur lesquels on va se pencher. Jamie Hadlon, qu'est-ce que vous anticipez ma prochaine question? Qu'est-ce que vous attendez à ce que soient les propositions finales? Comme Jeff l'a dit, David Riddle au micro, mon patron nous l'a dit souvent, une chose, nous voulons voir que les critères, que tout soit conforme avec les critères NTIA, et nous voulons assurer que les résultats du processus qui ont commencé avec le 113e congrès, que nous recevions un rapport au gouvernement américain sur la responsabilité qui discutera le genre, les aspects des politiques nationales et la transition Diana. Nous avons déjà vu des développements très positifs. Donc, James. Donc, vous avez vraiment une méthodologie des normes. Vous avez mis en place une méthodologie avec des normes. David Weller, oui, nous allons faire des analyses très rigoureuses, quelle que soit la proposition. Nous allons parler du système multipartite et nous allons nous assurer que les groupes qui utilisent des consensus puissent produire des propositions. Alors, pour suivre sur ce sujet, David Gorman au micro, oui, c'est la position des membres démocratiques à la chambre dans la chambre. Les membres pour lesquels je travaille vont rechercher, vont demander à ce que ce qu'on obtient en retour soutienne vraiment cette approche multipartite. et il faudra qu'il y ait une très très forte responsabilité. Cela va être très important. Je pense qu'on est tous très unis, dit James Branscombe. On en a à peu près tous le même avis là-dessus. Dernière question de Jamie Headlong. Oui, alors que nous arrivons vers la fin de ce processus, les propositions sont soumises à au NTIA. Et il y aura donc une approbation des organisations chartes. Cela passera devant le NTIA pour voir si les critères sont rencontrés. Et ensuite sera envoyé vers le Congrès pour approbation. Et si, par hasard, il y a des inquiétudes sur cette proposition devant le Congrès, ou quelqu'un demande qu'il pourrait y avoir du potentiel pour mainmise. Est-ce que vous avez un peu une idée de ce que le Congrès ferait ou pourrait faire dans ce cas-là? David, oui, je pense que c'est pour ça que nous sommes ici. Nous voulons être participés, nous voulons observer le processus, coordonner, travailler avec NTIA, et nous voulons éviter que cela se passe ainsi, qu'il y ait des problèmes. Moi, je ne pense pas qu'on pourrait passer à travers tout le processus du système multipartite et le processus de révision devant le NTIA et qu'il y ait encore des problèmes. Nous devons résoudre les problèmes avant. Nous voulons assurer que tous les problèmes soient adressés avant. Que les tests de stress soient faits, qu'ils fassent bien partie du processus. J'imagine, hypothétiquement, je pense pas qu'il pourrait y avoir. Il y aura certainement des inquiétudes de la part de certains membres du Congrès. Il y a quand même du temps avant que cette proposition soit terminée. Bon, c'est bon à savoir. Je suis d'accord, dit Jamie. Je suis d'accord. Nous sommes ici. Nous voulons continuer. Nous ne serions pas surpris s'il y avait des questions. Mais au niveau de la communauté, je vous mets à défi de travailler très dur, de vous rassembler, de présenter un plan que le Congrès ne puisse pas désapprouver. C'est bon, c'est tout. Je n'ai plus de questions. On a un peu de temps pour répondre à des questions du public. Si quelqu'un dans l'audience a des questions brûlantes cette soirée du dimanche. Monsieur Killian de Dublin. Combien de l'atmosphère bipartisante ou de cet environnement bipartisan c'est l'ignorance des législateurs. Ce que je veux dire par là, c'est que je spécule que une des raisons pour laquelle il y a des problèmes, c'est que sur l'accord, c'est que les politiciens ne comprennent pas ce que cela veut dire. Le panel, oui, nous avons passé beaucoup de temps à éduquer, à former les membres de nos communautés sur ce qu'est l'ICANN, ce que c'est que le processus multipartite et ainsi de suite. Donc les membres de nos comités sont très bien informés des deux côtés. Une fois que vous passez au-delà des juridiction de chacun des comités. Il est sûr que certaines personnes comprendront peut-être un peu moins, mais au sein des comités, tout le monde comprend très bien. David Reddle, les membres s'éduquent sur les problèmes. C'est pour ça que nous sommes ici. Tout le monde est éduqué. Nous voulons aider à nos patrons, nos patrons à comprendre. Nous sommes là pour voir ce qui se passe à votre niveau, pour pouvoir leur donner les informations sur ce qui passe. Nous avons participé, dit David Goldman, à beaucoup d'audiences et nous avons amené avec nous des témoins des experts. Fadi est venu, par exemple. Les gens viennent pour nous éduquer. Et ces audiences, par exemple, ne sont pas partisantes. Ce sont des audiences de formation, d'éducation. Et les membres ont été ainsi très intéressés sur toutes ces questions. Et je pense que maintenant, ils connaissent bien le sujet, David. Oui, quand nous avons amené ces soi-disant experts témoins, nous avons aussi amené des parties prenantes. Nous avons des audiences avec ISOC, par exemple, qui sont venus très souvent. Nous avons des groupes qui sont venus et qui ont parlé à nos membres directement pour leur expliquer exactement ce qui se passait. Ma vie, ce serait plus pratique s'il y avait plus d'ignorance. Personne dans la salle. Oui, deux questions pour vous. Est-ce que vos patrons sont inquiets? sur les possibilités de pour l'amendement de Ted Cruz sur le .com, sur l'acte .com, qui demanderait à ce qu'il y ait une approbation préalable du Congrès qui soit inclus dans la législation. Cela ressortirait donc du processus Sénat et Chambre des représentants. Et ma deuxième question, que pensez-vous et comment pouvez-vous exprimer ce que pensent vos patrons, par exemple, en ce qui s'agit des probabilités de la transition en général, des efforts de la transition qui pourraient se retrouver coincés dans un vortex, dans le vortex des élections, du cycle des élections 2016. Alors, Monsieur Jamie Headlong, oui, donc deux questions. L'amendement Cruz et la campagne présidentielle pour 2016. Sur le panel, oui, le sénateur Cruz fait partie du comité et il a offert un amendement en bonne foi. Le sénateur Cruz se rend compte, propose donc ses inquiétudes et il a étudié le processus. Il a proposé un amendement qui n'est pas passé. Et la version qui avait été enregistrée vis-à-vis de notre comité était identique à la version de .com qui était passée devant la Chambre des représentants. C'est une version qu'on a essayé de passer. Mais quand il s'agit des élections 2016, je pense que vous pensez du sénateur Rubio, sénateur Cruz. Sénateur Cruz a des inquiétudes en ce qui s'agit de la transition. Il y en a, et c'est très public d'ailleurs. Sénateur Rubio n'est pas encore tout à fait dans cette position. Je ne peux pas caractériser cela, mais je sais qu'il est très inclus, participe dans beaucoup des problèmes qui ont à faire avec l'Internet. Ça vient. Combien de tout ça va se retrouver coincé dans ce vortex des élections 2016? Oui, il y a des inquiétudes sur lesquelles les gens doivent discuter. Eh bien, on verra. Il faut qu'on attende pour voir. Christopher Wilkinson au micro. Merci pour votre sagesse et vos remarques. De façon historique, je parlais de l'équilibre entre le système multipartite de l'ICANN et de l'inclusion du rôle conseil, disons, consultatif des gouvernements. Par exemple, en Europe, quand on en parlait tout à l'heure, Monsieur Ioa Magazine en parlait tout à l'heure, certains de membres ont tiré l'alarme de façon... ce n'était pas nécessaire, c'est pas le problème. Hier, Fadi a fait un discours en tout ce qui s'agit d'inclure la mainmise. Au niveau du système multipartite, il faut qu'il y ait un équilibre dans les systèmes et dans l'organisation. Et cela inclut, du côté, les participants commerciaux et industriels. Donc, relaxer. Il n'y a aucun risque de mainmise des gouvernements. Il y a un bon équilibre sain entre le gouvernement et le reste du système multipartite. Et je pense que cela va continuer. Je vous demande de le soutenir, de soutenir cela. David, au micro. Je pense que nous sommes d'accord avec vous. Le système, l'équilibre qui existe maintenant entre le gouvernement et d'autres parties prenantes dans la CAN fonctionne bien. Je ne pense pas que mes boss, je ne vais pas les caractériser comme des gens qui tirent la sonnette d'alarme. Je pourrais perdre mon job. Mais je sais qu'il y a des inquiétudes et ces inquiétudes devraient être adressées. Et j'applaudis tous les gens dans les systèmes multipartites qui adressent ces inquiétudes. Steve Dobiak avec NetChoice. Steve DeBianco. J'ai été le témoin et j'en suis privilégiée d'être dans les audiences dont vous avez parlé. Et quand je vois les questions que ont posées vos boss, vos patrons, je vois qu'il y a un manque de prise de conscience, un manque de connaissance, pardon. Ils ont eu des pages et des pages de détails et ils ont posé des questions bien avant. Et c'est le rapport que ces hommes ont rassemblé pour résumer tout ce qui s'est passé dans les comités montre vraiment une connaissance en détail de l'Internet et la réputation que nous avons aux États-Unis quand on pense que le Congrès ne sait rien faire. Quand on fait quelque chose, eh ben on le fait bien et c'est ce que vous avez fait. Donc j'applaudis vos efforts pour vous, vous nous dites que il a été très difficile de rester focalisé et d'oublier ces problèmes du .com, du act.com, de l'acte.com. Les gens sont venus vous voir et vous fait des tas de demandes et .com suit les critères du NTIA et nous, si nous avons une recommandation de consensus pour la transition et aussi du côté de la responsabilité, donc le Congrès sera en position de soutenir la proposition. Et c'est tout ce que vous pouvez faire. Et quand il s'agit de la mainmise, vous avez vraiment raison d'être inquiet au niveau de la mainmise. Cette notion que les gouvernements peuvent changer la façon dont ils prennent des décisions, et ça laisse... On doit avoir d'autres conseils, d'autres. Il y a des gouvernements qui sont pour recevoir des conseils et d'autres gouvernements qui ne veulent pas recevoir des conseils. Donc c'est difficile. Ça met le conseil d'administration d'ICANN en position de négociation avec les gouvernements. C'est très sage de faire attention, comme vous l'avez fait, décider d'éviter certaines situations où les gouvernements peut faire quelque chose sans consensus et qu'ils auraient des opinions de contentieux. Et il faut qu'il y ait des peut-être, c'est pas le rôle de l'ICANN, peut-être l'ONU fait ça, mais ne rendez pas l'ICANN comme un médium comme les Nations Unies. Merci pour votre travail. Alors, David, Steve, merci pour vos bons mots, merci pour votre témoignage sage. D'ailleurs, vous êtes venu aux audiences. Nous faisons partie d'un organe où il y a deux côtés, où il y a souvent pas de consensus entre les deux parties. Si le Sénat et la Chambre des représentatives ne peuvent pas être d'accord sur le langage ou sur un texte, nous ne pouvons pas mettre ça devant le président. Nous comprenons quelle est la frustration dans ce processus. C'est le processus dont nous avons l'habitude et nous faisons avec. Jamie, dernière question. Je m'appelle Jordan Calder. Je fais partie du groupe qui travaille dans le processus de CCWG et à cause de ça, dans mon job, on doit faire face à beaucoup de détails et beaucoup de lectures. Vous avez une perspective différente parce que vous venez de l'extérieur, d'un contexte gouvernemental. Moi, j'ai une question. En observant ce processus jusqu'à présent, pour voir où on en est aujourd'hui, quelles sont vos surprises dans les conclusions que nous avons aujourd'hui?
David Goldman à micro. Alors, si je parle à un haut niveau et non pas dans les détails, je crois que le processus a été impressionnant. Les gens qui sont présents dans la salle, vous avez fait énormément de progrès et votre travail a été excellent. Nous avons énormément avancé et il me semble que déjà l'approche multipartite est un petit peu difficile à comprendre au départ. Et voir le fait que tout le monde a pu y arriver, c'est impressionnant. Donc encore une fois, plutôt que de rentrer dans les détails, je ne vais pas le faire, mais simplement les progrès qui ont été faits sont impressionnants. David au micro. Je crois que pour moi, David Reddle, je crois que nous sommes payés pour participer à des décisions, pour adopter certains processus et donc... Pour d'autres, c'est quelque chose qu'ils font parfois de manière bénévole. Et donc, je crois que ce qui est impressionnant et qui est surprenant, c'est le niveau de passion, le niveau d'implication des gens, alors que ces personnes sont simplement des utilisateurs de l'Internet et qui n'ont rien à gagner, finalement. Et donc, ça, c'est ce qui m'a impressionné. Ce n'est pas la première fois que je viens aux réunions de l'ICANN. Et à chaque réunion, je suis encore à nouveau impressionnée l'implication des gens. C'est cela qui me surprend le plus. Alors, cette fois-ci, c'est vraiment la dernière question. Sébastien Bachelet au micro. Je pense qu'il faut que je pense en anglais parce que même si nous avons l'interprétation, nous n'avons pas les écouteurs. Vous pourriez lire, mais ce n'est pas la même chose que d'écouter les bons outils que nous avons, nos interprètes. Mais merci. Par rapport à vos derniers mots, je crois que c'était intéressant. Il nous faut prendre en compte les utilisateurs finaux. Je suis un utilisateur final. Je suis présent dans cette organisation et je crois que les 3 milliards d'utilisateurs doivent savoir où nous devons aller et comment nous allons y arriver. Et parfois, j'ai un petit peu l'impression, en tout cas aujourd'hui, mais je ne comprends pas comment vous vous organisez. Moi, je ne suis pas citoyen des États-Unis et beaucoup des choses que vous nous dites, eh bien, nous avons du mal à le comprendre. Et pourquoi est-ce qu'on doit le faire? Parce qu'en fin de compte, ce qui est important, c'est que le monde soit d'accord sur ce qu'il faut faire, d'accord? Mais la dernière entité qui va approuver, c'est en fait le Congrès. Et donc, moi, je me disais que c'était autre chose, que c'était la communauté qui devait avoir le dernier mot. Alors, ma question, c'est comment est-ce que vous allez réconcilier ceci? Parce que la question que j'ai, c'est que vous allez être les derniers à avoir le mot, votre organisation. Donc, le Congrès, vous serez le dernier à avoir voix au chapitre. Ça, c'est ma première question. Deuxièmement, ma recommandation, c'est qu'il faut que vous parliez avec le GAC, avec les gouvernements, parce que le groupe de travail intercommunautaire sur la responsabilité ne sera pas le bon endroit pour négocier ce que le comité consultatif des gouvernements aura le droit de faire. Si vous avez des demandes, eh bien, j'espère que vous allez vous adresser au GAC. Mais ce n'est pas à l'utilisateur final de se retrouver coincé entre les deux. Ce n'est pas notre rôle. Merci. David Reddle, je peux répondre. Je crois que pour aucun d'entre nous, le Congrès n'a le dernier mot, mais je crois que c'est intéressant pour cette communauté internationale multipartite de voir un petit peu comment fonctionne le processus intergouvernemental au sein des États-Unis. Parce qu'en fin de compte, ce qui se passe, c'est qu'il y a un processus, le processus multipartite, mais il y a également un processus à l'intérieur du gouvernement des États-Unis. Et donc, je crois que le secrétaire Strinkling, lui, et je n'envie pas son rôle, il est justement coincé entre ces deux processus. Et c'est un lieu très difficile. Et je crois que personne d'entre nous ne souhaitons avoir son travail. Mais lui aussi, il a un processus à suivre au sein de notre propre gouvernement qui inclut la responsabilité des communautés d'autorisation au Capitole qui, donc, finance son travail. Donc, moi, je ne pense pas que c'est le Congrès des États-Unis qui a le dernier mot dans le système multipartite. Par contre, nous avons un rôle de supervision sur la NTA. Et c'est ce qui décrit notre rôle dans ce processus. Je crois que nous avons été relativement clairs, nos membres ont été relativement clairs, que lorsque nous avons une audience, notre travail, c'est de superviser la NTA, et la NTA, c'est le représentant du système multipartite lors de ces événements. Moi, je ne souhaite pas représenter le gouvernement des États-Unis au sein du modèle multipartite. Je crois que ce ne serait pas du tout utile. Mais le fait d'être là pour s'assurer que nous sommes entendus, nous sommes vus dans le cadre de cette décision, ça fait partie de notre travail. Jamie au micro, Jeff, Jan, David et David, merci beaucoup. Nous apprécions beaucoup votre présence aujourd'hui.